À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonjour Alain, bonjour Annie, bonjour Laurent.
Bonjour Annie, bonjour Laurent, bonjour Jean.
Bonjour à tous, ce sera plus vite fait. J'espère que ça se fait encore de dire bonjour, parce qu'il y a longtemps que je n'étais pas venue.
On a eu plein de demandes.
C'était pas des vraies infidélités, c'était pour partir en Italie quand même.
Oui, bien sûr.
En mission, voilà. Je formais les générations futures.
Très bien, oui, il faut.
Donc mission accomplie, me revoilà.
Bien, eh bien, bienvenue.
Alors, que s'est-il passé pendant ces trois mois? Ça fait au moins trois.
On
va pas en parler. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière?
La semaine dernière, quand l'émission sera diffusée, ça sera plus tard au mois de juin, mais nous enregistrons aujourd'hui, mercredi 2 juin. Alors, ça vous dit quelque chose, le 2 juin?
2 juin, oui, il y a un anniversaire.
Il n'y a pas une petite fête nationale?
Oui, c'est la fête nationale de l'Italie, le 2 juin.
Ah, c'est pour ça qu'on a avancé au 2 juin.
Non,
c'est les hasards du calendrier.
Oui, parce que les disponibilités du studio de Couleur FM coïncident parfaitement
avec la fête nationale.
Les grandes dates italiennes.
Viva Couleur FM!
Peut-être qu'on va avoir la visite du consul, madame la consul, sait-on jamais.
Qui c'est, du président de la République?
Ou du président de la République.
Nous sommes le 2 juin dans l'après-midi.
Oui.
Et ce matin, il y a eu un grand défilé de 6000 soldats italiens sur la Via dei Fori Imperiali, sous la présidence du président de la République, qui a rappelé l'importance de ce 2 juin. Alors, vous savez ce qui s'est passé le 2 juin?
Oui, mais vous allez nous le redire.
Un référendum, absolument.
Entre quoi et quoi?
Il fallait choisir entre la monarchie et la République.
La monarchie et la République, parce qu'on sortait d'une monarchie tellement... qui s'était tellement...
2 juin 1900 combien, au fait?
46.
Voilà,
très bien, comme ça on sait tout.
Une monarchie qui s'était tellement compromise avec le fascisme. Victor Emmanuel III avait appelé Mussolini au pouvoir face à une marche sur Rome qu'il aurait suffi de lancer quelques carabiniers et quelques militaires pour l'arrêter, parce que c'était pas sérieux. Mais il s'est laissé impressionner, il a appelé Mussolini au pouvoir, donc il est arrivé au pouvoir de façon parfaitement légale, après quoi il a commencé à faire assassiner ses adversaires, Matteotti en particulier, et puis plus tard Gobetti, les frères Rosselli. Et donc... cette compromission fait que, à la fin de la guerre, après la libération, lui-même se demande, lui-même est conscient de ce passé, et un mois avant le référendum, il remet le pouvoir royal à son fils, qui sera donc Humbert II. Et puis, ça ne change rien au résultat. Le peuple italien, il y a un peu plus de 24 millions
d'électeurs.
Il y en a 22 millions qui votent et il y en a 12 millions pour la République et 10 millions pour...
C'était quand même pas...
2 millions, c'est pas mal.
Oui, 2 millions, oui, mais enfin...
Oui, mais effectivement, ce que vous dites est la réaction de la famille royale, qui dit non, c'est pas sérieux, nous ne reconnaissons pas les résultats du référendum.
C'est pas suffisant.
Et donc, comme ils ne reconnaissent pas les résultats du référendum, ils sont exilés d'Italie, tout simplement, ce qui était parfaitement normal. Et ils restent exilés jusqu'à il y a peu d'années, où ils sont rentrés en Italie. Enfin, les enfants, les descendants sont rentrés en Italie.
Pour se lancer dans la chanson.
On récupère quelques châteaux. Victor Emmanuel, je ne sais pas combien, ce qu'il aurait été, a été condamné à plusieurs années de prison pour soutien à un réseau de prostitution.
Oui, il avait des activités. Il fallait bien qu'il s'occupe.
Oui, bien sûr.
Ouais. Puis qu'il fasse rentrer un peu des sous.
Et puis l'Emmanuel Philibert, il a commencé comme danseur et il a essayé de continuer comme chanteur. Comme c'était un descendant d'une famille royale, on lui a quand même donné un prix à Saint-Rémy. On avait parlé de ça précédemment.
Sous les vivas des musiciens.
Sous les huées des musiciens qui en ont déchiré leur partition.
C'est lui
tellement ils étaient furieux.
Qui a épousé une Française, l'actrice française, ou c'est encore... Oui.
Clotilde.
Ah, Clotilde, voilà.
Voilà, oui, oui.
Ils renouent avec les rois, effectivement. Ils épousent des Françaises. Voilà, la France et l'Italie, toujours.
Ah bon, parce qu'ils avaient épousé des Françaises,
bah, oui,
les rois. Les rois d'Italie.
Ah bah les Médicis.
Ah oui, oui, non, non, oui, oui.
Mais les Médicis. Ah oui, que même des présidents de la République qui épousaient les Italiens.
Et puis même après les Médicis, les frères de Louis XVI, ils avaient bien tous les deux épousé des princesses de Savoie.
Ah oui, oui, les rois de France, vous voulez dire. Non, les rois d'Italie, que je sache,
n'ont
jamais...
Ah oui, les rois de France épousaient des princesses italiennes.
Ah oui,
ça
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, enfin, tout ça, c'est de l'anecdote.
Qui unit nos deux beaux pays.
Donc voilà, c'était le 2 juin aujourd'hui.
D'ailleurs, l'officialisation du 2 juin a été... renouvelé en 77.
Oui.
Parce que pendant longtemps, je crois qu'il y avait eu... Enfin, disons que non, c'est ça. C'est qu'en 77, il y avait une crise économique et que la date n'était plus la date de célébration, on va dire. On n'était plus le 2 juin, mais le premier dimanche de juin.
Oui.
Et puis, c'est Ciampi, sous le gouvernement Ciampi, c'est le gouvernement Amato, en fait, qu'en 2001, je crois, la date du 2 juin a été réofficialisée comme date unique de commémoration de cette république.
Et maintenant, c'est à nouveau le 2 juin.
Maintenant, c'est toujours le 2 juin.
Mais on a remarqué aujourd'hui, 2 juin, que les ministres de la Ligue se sont abstenus de participer à toute manifestation ce référendum qui va préparer par ailleurs qui célèbre l'unité, la libération, la seconde libération de l'Italie, et puis qui sera suivi du vote de la Constitution par l'Assemblée constituante. La Constitution qui entrera en vigueur le 1er janvier 1948 et qui est l'actuelle Constitution républicaine de l'Italie. Alors, on ne sait pas trop bien dans quelle république on est, la première encore ou la deuxième, mais voilà, il y a cette contestation de l'unité italienne par les gens de la Ligue que des ministres, que la tendance de Fini a vivement condamné ce matin, disant que c'était vraiment une erreur politique.
Il n'en est plus à la première condamnation, d'ailleurs, dans ce gouvernement.
Non,
Fini.
Non, non. Et aujourd'hui, il est allé en Afghanistan pour se trouver aux côtés des troupes italiennes qui sont là-bas à l'occasion de la fête du 2 juin.
Ah ben, fallait bien que quelqu'un représente effectivement l'Italie en Afghanistan.
Voilà. Bon, bah alors sinon, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses, mais qui sont un peu conformes à la situation de crise que nous connaissons tous. En particulier, le ministère est en train de faire voter. Alors, quand sera-t-il? Quand l'émission sera diffusée? Je n'en sais rien, parce qu'il est en train de faire voter un plan d'austérité de 24 milliards d'euros. Et qui mécontente tout le monde, y compris beaucoup de gens de droite. Alors, il s'agit évidemment de faire plusieurs milliards d'économies et de trouver 8 milliards nouveaux en luttant contre cette tradition italienne qu'est l'évasion fiscale.
Si elle était qu'italienne.
Oui, oui, oui.
Elle est quand même très, très forte, était très traditionnelle en Italie. Alors, il veut par ailleurs augmenter la fiscalité sur les stock options, sur les bonus des hauts dirigeants d'entreprises privées, qui devraient être de 10%. Mais surtout, il coupe donc 16 milliards dans le budget de l'État. Alors, ça veut dire des coupes d'abord sur la culture, à tel point que même le ministre de la Culture a dit que c'était insupportable et qu'on ne pouvait pas ainsi. Ça va aboutir à supprimer toutes les fondations culturelle. Ça va aboutir à interdire aux régions, aux communes, les financements qui leur permettent de faire les manifestations culturelles dont ils sont par ailleurs responsables. Ça va tuer le centre expérimental de cinéma du Vittoriale. Toutes ces fondations ou associations qui sont considérées comme inutiles, parce que quand on est un gouvernement Berlusconi, la culture n'est pas d'une utilité première. Et d'abord, c'est vrai que ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte.
Ça, c'est vrai.
Donc, ce qui coûte et ne rapporte pas, c'est pas vraiment très, très intéressant. Et puis, ça va couper des crédits.
Les fonctionnaires, comme d'habitude.
Oui, alors on va couper bloquer les salaires de tous les fonctionnaires pendant 3 ans. Vous voyez à peu près la réaction que ça provoque chez les quelques millions de fonctionnaires. On coupe 10 milliards de crédits aux régions. Ça va tuer un certain nombre d'initiatives des régions. On coupe les crédits de la recherche. Paraît-il, rendre plus transparentes les paiements et combattre l'évasion fiscale et la criminalité organisée, on va contrôler les paiements en comptant à partir de 5 000 euros.
C'est impossible.
C'est impossible. Non, mais c'est des mesures qui ne rapporteront pas d'argent parce que...
Malheureusement, les décisions d'austérité du gouvernement italien ou des autres gouvernements européens, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, sont lamentables. Je crois qu'on est peut-être à la fin d'un système qui a prouvé qu'il n'est pas viable. Et comme les mesures, notamment les dernières que tu parles, où on fait semblant de chercher l'erreur quelque part, elles sont prises par des gouvernants qui ont eux-mêmes initié ce genre de pratique.
Absolument.
C'est absolument lamentable. Et les coupes sur la culture, les coupes sur ci, les coupes sur là. Tous les gouvernements, parce que tous en plus, hein, tous les gouvernements, qu'ils soient anglais, italiens, espagnols, français, prennent tous les mêmes. Ouais. Mais quand on arrive dans ce système où des agences de notation privées, 3 agences de notation privées, mettent à genoux des pays, certes, qui n'avaient peut-être pas eu une tenue de leur compte parfaitement rigoureuse mais qu'on puisse mettre à genoux sur ces simples notations des pays, je trouve que c'est quand même assez lamentable. Et on ne mesure peut-être pas les conséquences parce que il y a pour le moment là des veilles de vacances, des mesures un peu de partout, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller dans les réactions.
Elles sont aussi
elles sont imprévisibles, je pense.
Absolument. Et on va par exemple mettre une taxe supplémentaire de séjour aux touristes.
À Rome, oui, j'ai entendu ça. 10 euros par jour par touriste. Ben
10 euros par nuit.
On cherche l'argent de partout.
Mais là aussi, on va diminuer dans un domaine qui est un de ceux qui rapportent le plus à l'Italie. Et évidemment, on se met à dos. Alors, on se demande quels seront les résultats. Est-ce que les Italiens vont traduire tout ça au moment des prochaines élections? On n'en sait rien.
Moi, je crois que c'est la vraie question. Mais je pense aussi que les politiques, et à la limite, j'allais presque dire, les politiques de tous bords sont complètement perdues.
Oui, complètement.
Complètement dépassées par les événements.
C'est la fin d'une époque, l'époque de la société de consommation.
On a un système qui est allé très, très loin et on ne le maîtrise plus.
On ne le maîtrise plus et on ne sait plus comment en sortir.
D'ailleurs, si on regarde le plan que tu viens de détailler, ils se ressemblent tous. Tous. Après, avec les personnalités effectivement différentes qui aggravent ou pas la situation, mais il n'y a pas d'invention en fait, il n'y a rien.
Rien
du tout.
On parle aussi de diminuer le nombre de ministres, par exemple.
Ouais.
Alors que Berlusconi lui-même, en 2004, on a retrouvé ses discours, appelait à l'évasion fiscale. Il avait démontré, il n'y a donc jamais que 6 ans, que l'évasion fiscale était normale et qu'il n'y avait rien à dire là-dessus.
Il a dû beaucoup s'évader, lui aussi.
Et c'est là, d'ailleurs, on touche un autre point. C'est que, bon, il y a de nombreuses années, les paroles pouvaient être mal interprétées, mal retraduites dans les journaux. Alors que maintenant, avec tous les systèmes audiovisuels, on peut prendre en défaut qui on veut, 2 ou 3 ans après, des paroles prononcées. Ouais, ouais. Non pas des promesses, parce que les promesses électorales, on sait ce qu'elles sont, mais vraiment des certitudes. Oui. Et ça ne gêne personne.
Non.
Ça ne gêne personne.
On dirait que les gens n'ont pas de mémoire. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler le passé, comme l'a fait le président de la République sur l'importance de la Constitution. Même si lui-même, en ce moment, est un peu contesté parce que le Sénat vient de décider d'envoyer un texte de condoléances à la famille Craxi, par exemple, pour commémorer la mort de Craxi, qui avait échappé à la justice italienne. Il était condamné à plusieurs années de prison pour tous ces faits de corruption, etc., au moment de Tangentopoli. Et il s'avère que qui était à l'époque celui qui a protégé Craxi, qui était membre du Parti communiste italien, mais qui a toujours défendu, qui était pour la défense de l'alliance avec le Parti socialiste dirigé par Craxi, c'était Napolitano. Et il a sur ce point un creux dans une carrière politique par ailleurs tout à fait honorable. Il a un creux qui risque d'être lourd à porter parce qu'on fait le bilan du coup du craxisme et c'est un bilan horriblement lourd pour le Parti socialiste.
Il est peut-être tombé dans le piège de beaucoup à une époque où, effectivement, certains étaient un petit peu admiratifs de Craxi.
Oui,
avant de se rendre compte du personnage.
Oui, enfin, c'est pas un innocent, un Napolitain.
A priori, non. C'est pas, comment on dit,
un perdreau de l'année.
Un perdreau de l'année, voilà.
Non. Alors, par contre, je signale... vient de sortir un ouvrage à propos de l'unité sur Cavour de Rosario Romeo, qui connaissait bien Cavour et qui a montré combien ce qu'il a fait pour l'unité a été fondamental et génial parce que l'Angleterre était contre l'unité italienne. La France n'était pas favorable à l'unité. Elle aurait préféré une fédération. Et c'est Cavour qui a su jouer remarquablement sur Napoléon III pour amener la France à soutenir la lutte du Piémont.
Avec l'aide de Madame de Castiglione.
Oui, Madame de Castiglione. C'est vraiment de l'anecdote. Et c'est les histoires de fesses qu'on est...
Les histoires d'amour, on dit.
Mais non.
Est-ce qu'en politique, elles deviennent des anecdotes?
Je ne sais pas. Ouais.
Dans ce domaine, je crois que les histoires de fesses de Napoléon III n'ont pas été absolument déterminantes.
Ah bon?
Bon, ça peut-être
on
un peu...
On va faire une émission là-dessus.
Je ne sais pas, parce que... on n'a que des on-dit. Hier soir, la télévision passait une émission sur la maîtresse de Félix Faure, dans les bras de laquelle il était mort. Oui. Ça a toujours un public très important, mais je ne suis pas sûr que l'amour détermine totalement les choix politiques. C'est dommage. Hein.
C'est bien Clémenceau qui disait « Il a vécu en César, il est mort Pompée
». Oui. Bon. Il y a donc ce livre sur Cavour qui semble importante. Et puis, une dernière chose, on célèbre les 30 ans de la mort de Walter Tobagi, qui a été assassiné donc, le 28 mai 1980 par une bande de terroristes du 28 mars. C'était le nom que s'était donné ce groupe.
Ce pas les Brigades Rouges, c'était autre chose.
Non, c'était un groupe parallèle aux Brigades Rouges. Et c'était un journaliste du Corriere della Sera qui a été un des très grands journalistes de l'histoire de l'Italie, défenseur d'une politique réformiste, un peu dans la ligne de ce que prônait... des gens comme Piero Gobetti sous le fascisme. Et ça a été un très grand bonhomme. C'est pour ça, d'ailleurs, que les groupes d'extrême-gauche ont décidé de l'assassiner. Ils n'ont jamais... Ça repose le problème des déterminations de leur politique. Ils n'ont jamais assassiné un homme de droite ou d'extrême droite. Jamais. Il n'assassinait que les gens de gauche, syndicalistes, enseignants, journalistes, qui se prononçaient pour une autre politique que celle qui était menée par
des
la démocratie chrétienne.
Voilà, c'était des traîtres pour eux.
C'était des traîtres.
Alors que ceux de droite, c'était affiché, carrément.
C'était des gens dangereux, parce que Tobagi était un journaliste catholique, par ailleurs. Et c'est eux qui étaient susceptibles de transformer le climat politique de l'Italie. Donc, c'est eux qu'il fallait descendre, parce qu'il ne fallait pas transformer le climat politique. Il fallait pousser les choses à leur extrême. Il fallait avoir le gouvernement le plus mauvais possible pour pouvoir le renverser plus facilement.
Alors, une petite chanson révolutionnaire, là, pour tout ça ?
Non, mauvaise chanson. Une chanson d'amour de André.
À ta demande ?
À ma demande.
Et oui, puisque vous nous dites que,
que
l'amour est important. Une des premières chansons de De André de 1966, Amore che vieni, amore che vai, amour qui vient, amour qui t'en va, séjour perdu à poursuivre le vent, à lui demander un baiser et à en vouloir cent autres, un jour quelconque, tu t'en souviendras. Amour qui fuit, tu reviendras chez moi. Et toi qui, avec les yeux d'une autre couleur, tu me dis les mêmes paroles d'amour, dans un mois, dans un an, tu les auras oubliées. Amour qui vient de moi, tu fuiras. Venu du soleil ou de plage gelée, perdu en novembre ou avec le vent d'été, je t'ai toujours aimé, je ne t'ai jamais aimé. Amour qui vient. Amour qui s'en va.
Sur Couleur FM.
90.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. Che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai.
Voilà, amore che vieni, amore che vai.
Qu'on a entendu à la fin mai. À l'île d'Abou, dans un spectacle Brassens d'André.
Voilà, c'est pour ça qu'on le repassait aussi. Mmh. Et c'est une très belle chanson, l'incertitude de l'amour. Je t'ai toujours aimé, je ne t'ai jamais aimé. Amour qui vient, amour qui va. Voilà. Alors, trois petites nouvelles avant de passer à autre chose culturelle. D'abord, on a eu la surprise de constater que, qu'à l'occasion d'une manifestation dans une école, dans un collège de Rome, où étaient les représentants du ministère de l'Éducation nationale, enfin, le Ministero dell'Istruzione, et puis des représentants du sous-secrétariat à l'instruction, Giuseppe Pizza, du chef du secrétariat du ministre, Pasquale Capo, les élèves, la chorale du collège, qui chantait, à la fin de sa prestation, a cru bien faire en ajoutant les notes de Bella Ciao. Ils ont chanté Bella Ciao, la version de la Résistance. Et la chef d'établissement du collège a vivement protesté en disant que c'était indécent, que c'était une offense aux représentants du ministère qui étaient ici.
Oh, elle voulait faire sa cour, celle-là.
Alors, évidemment, ça a suscité des protestations. D'abord, des parents d'élèves qui étaient là, qui ont trouvé que... C'était bien, au contraire, que les élèves improvisent autre chose que le programme qui était prévu. Et puis,
c'était pas complètement improvisé, je pense.
C'était pas complètement...
mais c'était bienvenu, on va dire.
C'était bienvenu, puis au moment de la manifestation de la fête de la République, le président de la République n'arrête de répéter que la résistance, c'est le moment... C'est les valeurs de la résistance sont celles d'où est sortie la République italienne.
Ils écoutaient simplement leur président.
Voilà. Donc, cette protestation de la chef d'établissement de l'Institut Bailly a provoqué des protestations des élèves eux-mêmes, des parents, du Parti démocrate, dont des députés étaient présents aussi, et qui demandent contre elle des sanctions. Alors, c'est amusant. Voilà. 2010, on chante Bella Ciao dans une école et c'est considéré comme un chant qui offense les représentants de l'État.
On est vraiment... À la limite, elle obtient l'effet inverse de ce qu'elle voulait, finalement.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est quand même assez dérisoire. Et puis, alors, dans un autre domaine, il y a eu récemment une discussion scientifique sur un tableau célèbre de Botticelli, Vénus et Mars. C'est un des grands tableaux de Botticelli. On voit, je ne sais pas si vous, vous l'avez en tête, sur la droite du tableau, Mars... presque nu, est étendu, est en train de dormir. Et puis en face de lui est étendue Vénus, très, très habillée. C'est le portrait de Simonetta Vespucci, bien sûr. Et alors, sous le bras gauche de Mars, il y a un petit diable. Et ce petit diable pose la main sur une grande feuille d'une plante qu'on n'avait pas spécialement travaillée jusqu'à maintenant. Or, voilà qu'un biologiste qui travaille sur les tableaux a dit, mais cette plante, cette feuille, c'est du Datura stramonium. Ah. Or, le Datura stramonium était un psychotrope.
Ben oui.
C'était une drogue, mais toujours, bien sûr, mais qui était connue des anciens Indiens, qui était connue des Grecs, qui était connue des populations américaines, des Hindous, etc. Et qui était probablement utilisée, elle suscitait des comportements un peu orgiastiques, des trans. C'était un aphrodisiaque très
pauvre Mars,
très
il n'avait pas
puissant.
De Viagra, il avait de la Datura.
Alors, voilà, il y a un biologiste qui démontre que c'est du Datura stramonium. En quel cas, Botticelli, qui étudiait les plantes dans les jardins des Médicis, aurait bien mis un aphrodisiaque, ce qui expliquerait l'état d'épuisement dans lequel se trouve Mars dans le
alors, pour vous, ça le dérange, là,
le tableau. Non, ça ne le dérange pas.
Ah, ça ne le dérange pas.
Ça le dérange pas. Ah, mais alors, il y a un autre biologiste qui a aussi étudié le tableau et qui est un des grands spécialistes avec Madame Levi d'Ancona, un grand spécialiste de la végétation dans les tableaux de Botticelli. Il dit non parce que...
spécialiste de végétation dans les tableaux.
Quoi, dans les tableaux de Botticelli?
Ah oui, madame Lévi-Dancone a passé une partie de sa vie à étudier les plantes, mais dans la primavera, vous savez qu'il y a plus d'une centaine
de plantes qui
sont représentées. Ah si,
il a passé sa vie
à ça.
Mais c'est intéressant, vous savez, il y a deux choses intéressantes, l'étude de la végétation, puis l'étude de ce qu'on mange dans les représentations
des banquets.
Et ça produit, ça dit des choses étonnantes sur la réalité de l'époque. C'est deux points de vue, deux points d'approche très intéressants de la peinture. Et cet autre spécialiste dit non, parce que la feuille n'a pas de piquant. Or, elle est verte, et quand les feuilles de Datura stramonium sont vertes, elles ont des piquants. Donc, c'est probablement feuille de concombre d'âne.
Parce que
le concombre d'âne, c'était un purgatif. Et donc, il dit, si c'est bien ça, ça veut dire que Botticelli s'est foutu de notre gueule. Ouais. Il s'est amusé aux dépens de son public.
Et pourquoi pas?
En mettant sous les fesses, sous le bras de Mars, une plante qui est un purgatif.
Alors donc, il faut les décider tous les deux. Qui a raison? Est-ce que c'est la natura ou le concombre?
Et on ne peut pas l'interviewer.
Non.
Mais c'est intéressant parce que c'est très souvent que les peintres, les grands peintres, dont on croit qu'ils étaient sérieux, ils s'amusaient énormément, les plus grands, à faire des farces dans leurs grandes fresques et leurs grands tableaux. Et là, ça serait le cas. Et puis, une dernière chose, on a ouvert à Rome un nouveau musée d'art contemporain, c'est le Maxi, M-A-2-X-I.
Ah oui.
Mais les deux XI, c'est 21e en réalité. C'est un musée d'art contemporain qui semble très intéressant, où on a exposé, entre autres, actuellement, il y a des sculptures de Dominicis, qui est un des grands contemporains. Et donc, si vous allez à Rome, n'oubliez pas d'aller voir le Maxi, qui est un des grands musées récents, ouverts nouvellement.
Il est où?
À Rome. Alors, je n'ai pas l'adresse du Maxi.
Dans un ancien palais,
évidemment. Ici. Oui, c'est, mais qui a été refait, qui a été modernisé.
Vous cherchez, vous me direz la prochaine fois.
Bah, vous regardez, vous tapez MA2XI sur Internet et vous trouverez ça pour votre prochain voyage en Italie, à Rome. Dans votre prochaine mission en Italie, à répondre aux cris d'alarme des maires italiens qui se plaignent et qui viennent de lancer un appel vraiment très sérieux du comportement des touristes étrangers en Italie. Il dit que ces touristes ont perdu tout bon ton, ils le disent en français d'ailleurs, ils ne respectent pas l'environnement, ils ne respectent pas les gens, ils ne respectent pas les traditions locales, ils se baladent dans des tenues impossibles et insupportables, qu'on soit torse nu, homme ou femme, sur une plage, très bien, mais torse nu, là il n'y a guère que les hommes encore, dans une rue de Florence ou de Venise, c'est parfaitement indécent. Et ils ont vraiment raison de protester. Alors, ils viennent d'éditer une règle en 10 points où ils expliquent ce qu'il faut faire pour essayer d'éduquer des touristes à une tenue correcte.
Leur mettre la burqa.
Mais non, mais Annie, pourquoi aller...
Mais elles sont bien couvertes, là.
Mais non, mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de cacher les gens. Il s'agit qu'ils soient corrects, qu'ils respectent les gens. Ils ne respectent pas les populations. Ils ne respectent pas les... Il faut voir les touristes.
Je suis d'accord avec vous. Ils jettent... D'avoir donné l'autorisation de tout faire, on avait le droit de tout faire. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Ben voilà, on en arrive.
Ils jettent leurs bouteilles de bière ou leur cassette là, de Coca-Cola... partout, n'importe où, dans les rues.
Dans le Grand Canal.
Absolument. C'est indigne. Alors, ce n'est pas un problème de burqa, mais c'est un problème de respect de ce que sont les gens, de l'environnement, des traditions. Ils vont photographier des gens. Ils voient des paysans ou des paysannes qui sont devant chez eux. Ils se mettent à genoux, puis ils photographient. Et s'ils se prennent des pierres dans la gueule, moi je dis c'est très bien. Si on casse leur appareil photo, c'est très bien. Parce que c'est indécent.
Je suis d'accord avec toi.
Et les touristes étrangers, français en particulier, ont un comportement où on parcourt les rues d'une ville touristique en hurlant, en faisant des âneries. Non, c'est pas supportable. Et effectivement, c'est quand même significatif que les maires italiens, de droite ou de gauche, d'ailleurs, c'est pas un problème politique, protestent et appellent à une grande attention sur les touristes. Il y en a quand même 25% qui disent que les citoyens italiens ne supportent plus les touristes. Et c'est dommage parce que le tourisme est aussi une des sources de revenus les plus importantes de l'Italie.
Et comment ?
Alors, on écoute une autre chanson de De André, puis après on écoutera des Brassens. C'est la balade du héros. C'est une chanson qu'il a écrite en 1961, qui est très, très d'actualité si on pense à la réalité des guerres d'aujourd'hui. Il était parti pour faire la guerre, pour donner son aide à sa terre. On lui avait donné des écussons et des étoiles et le conseil de vendre cher sa peau. Et quand on lui a dit d'aller de l'avant, il s'est poussé trop loin pour chercher la vérité. Maintenant qu'il est mort, la patrie se fait gloire à la mémoire d'un autre héros. Mais elle qui l'aimait attendait le retour d'un soldat vivant, d'un héros mort. Qu'est-ce qu'elle fera si à côté, dans son lit, lui est restée la gloire à la mémoire d'une médaille ?
Partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle. E quando gli dissero di andare avanti troppo lontano, si spinse a cercare la verità. Ora che è morto, la patria si gloria d'un altro eroe alla memoria. Aspettava il ritorno d'un soldato vivo, d'un eroe morto, che ne farà? Se accanto nel letto le è rimasta la gloria d'una medaglia alla memoria.
Voilà, De André a été un des grands auteurs, compositeurs, interprètes qui ont écrit contre la guerre, pour les pauvres, les marginaux, etc.
Qui avait ses propres chansons, celles qu'on vient d'entendre, et puis aussi qui a traduit Leonard Cohen, qui a traduit Bob Dylan, et surtout Georges Brassens.
Voilà,
Brassens.
Absolument.
On l'a entendu samedi dernier.
Il avait beaucoup de similitudes avec Georges Brassens, d'ailleurs. Qu'il admirait profondément et qu'il n'a jamais voulu rencontrer de peur de casser le mythe.
Ah bon oui.
Et Georges Brassens connaissait les traductions de André.
Ah oui.
Puisque Brassens lisait l'italien par ses origines maternelles. mais ne se sont jamais vus, en fait, ne se sont jamais rencontrés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a eu l'idée, nous, de faire rencontrer des gens qui les interprétaient. Mmh. Voilà. Et on va peut-être écouter une de ces adaptations d'une chanson de Brassens.
Ah oui, on peut en écouter une, c'est l'eau, dans l'eau de la Clairefontaine.
En fait, qui est un tout petit peu différente.
Oui, parce qu'il a dû...
Adapter.
Il a dû adapter.
Alors, c'est traduit.
Oui, oui, c'est de faire rentrer les vers.
C'est le problème de la traduction d'une chanson, parce qu'il faut, il faut à la fois respecter le texte qu'on doit traduire, et puis, dans une autre langue, retrouver...
Les rimes.
Moins les rimes que le rythme musical.
Musical. Ouais,
ouais. Donc c'est pas...
C'est un exercice qui n'est pas facile.
C'est très très difficile. Mmh. Et De André s'en est bien tiré. Mais alors il a par ailleurs adapté sa chanson à la réalité locale. Par exemple, il remplace... dans la chanson de Brassens, il introduit quelque chose qui n'y est pas, c'est les mimosas. Mm. Mais De André était génois, donc la Ligurie, une des grandes productions de fleurs de la Ligurie, c'est les mimosas. Et il dit « Dal folto dei capelli mi chiese per rivestirla di cercare i rami di cento mimose ». Il cherche pour l'habiller les branches de 100 mimosas et de les tresser branche à branche. Et puis couvre ses épaules de pétales de rose. Mais ses seins étaient si petits
qu'une seule rose a suffi.
Qu'il faut sufficiente una rosa. Et puis après, il arrive à couvrir ses flancs d'une seule feuille de vigne. Et puis voilà le vent. Et ce vent... c'est la tramontana. Mm. C'est la tramontana.
Le vent local.
Qui est un vent local. Voilà. On écoute alors Nell'acqua della Chiarafontana.
Sur Color FM, toujours.
97.1.
Della chiara fontana, lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese, per rivestirla di cercare, i rami di 100 mimose, e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi eran così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita. Io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando Dio per un soffio di tramontana.
Fabrizio De André dans une traduction, donc adaptation plutôt d'une des chansons de Brassens. Mais il n'est pas le seul à avoir adapté et traduit Brassens ?
Non, Brassens a été un des plus traduits des auteurs français.
Déjà dans le monde entier, et oui. En Italie en particulier.
Et avec Brel, avec Barbara.
Léo Ferré, qui s'est traduit lui-même.
Et oui, puis Léo Ferré, il était à moitié italien, en fait. Donc, il a chanté, il s'est traduit et il a écrit.
Directement en italien.
Des chansons
et chanté,
en italien. Et puis alors... Brassens a été traduit non seulement en italien, mais en dialecte. Et il y a au moins deux dialectes dans lesquels il a été traduit. C'est le piémontais par Franco Amodei, qui a traduit plusieurs chansons de Brassens. C'était vraiment, Brassens, c'était pour lui un modèle de chanson. Amodei a été... un théoricien, il était architecte, il est toujours d'ailleurs, il vit toujours.
Il ne chante plus beaucoup.
Il ne chante plus beaucoup, mais ça lui arrive encore. Mais c'est un peu plus de 80 ans.
La voix, ça s'use. Hein.
Et ça dépend.
Ah oui ?
Ça dépend, non.
J'ai entendu des... il chante encore. Hein.
Oui. Moi, j'ai entendu Charles Trenet à un festival en Italie un an avant sa mort. Il avait une voix de jeune homme. Hein.
Ah ouais.
Ah, c'est extraordinaire.
Puis elle se cultive en plus.
Elle s'entretient. Elle chante tous les jours.
Donc, Amodei qui écrivait des chansons contestataires et révolutionnaires. Pour lui, la musique était un instrument de révolution. Mmh. Et il pensait que Brassens était un modèle de chansons. Et il l'a beaucoup traduit en dialecte piémontais. Amodei était de Turin, est de Turin. Et puis, il y en a un autre, c'est un Milanais, Nanni Svampa, qui a traduit Brassens en dialecte milanais. Et c'est probablement les traductions les plus proches de la langue de Brassens.
Justement, quand on se rend à l'espace Brassens à 7,
oui.
À l'entrée de l'espace, il y a souvent des disques d'ailleurs, plus que des CD, d'interprètes de Brassens dans des langues étrangères. Et il y a un disque de Nanni Svampa.
Ah oui, Nanni Svampa a traduit. Là, j'ai un double 33 tours, 10, 20 chansons. Et il en a traduit d'autres qui ne sont pas sur ce disque.
Il a beaucoup d'ailleurs axé sa carrière sur les traductions de Brassens, Nanni Svampa.
Beaucoup. Et puis sur des traductions. Il y avait quelques grands auteurs. Tu parlais tout à l'heure de Bob Dylan et Leonard Cohen. C'est vrai que... ils ont été parmi les plus influents. Alors, on peut en écouter une qui est la canzone. En italien, ça serait la canzone per il rigattiere, la chanson pour le fripier. C'est la chanson pour l'Auvergnat de Brassens. Et dans le dialecte milanais, c'est canzone per il rotamat. Et c'est une langue qui est vraiment très, très... riche, très imagée, un peu à l'image, elle rend très bien la langue de Brassens.
Grazie, vi ringrazio moltissimo. Stiamo per lasciarci e vorrei salutarvi con la canzone più bella forse di Brassens, almeno a mio giudizio, l'inno all'amicizia, la chanson pour l'Auvergnat. Per Brassens l'Auvergnat è il carbonaio, l'amico che lo ha ospitato, aiutato negli anni difficili. Il milanese Rutamatti è semplicemente un povero Cristo che fa un lavoro umile. Questa è la canzone della riconoscenza e dell'amicizia di un povero Cristo a un altro povero Cristo, a un compagno che l'ha aiutato nei momenti difficili. La super Rutamatti.
Per te la mia canzone, ti è rotamat, ti è il me barbun, che te me dà un po' de mangiar, quan se riresta senza ca, che te me dà un toc de pandur, quanti barbon che gavevi in gir, i sciuri e la gente per ben. M'aveva entrata pesce d'un can, l'era domà un toc de pan, ma l'esta se de tirala, del suo profumo
el senti ammò, me pare de vestre ammò a sgagnal. E il me barbun quante vederà, quante il Signore il te chiamerà, e andare dritz ti e to barbis a sta in paradis. Canti per ti la mia canzon, ti è ruta mat, ti il me barbun che te me dà. El top alto veg, quan se ristrascia e prende frecce, te me fa scaldar un puyos, quan son resta con una gota d'os, quanta ambrusanca i panchet, e miseri senza calzet, le radoma un toc de strash. Ma resta sede tirala, il so calur, il senti ammo, me pare de vestre a metter su, il me barbu quante vederà, quante il Signore il te chiamerà, tendare drizzi e i to barbis, a sta in paradis. Canti per ti la mia canzon, ti è ruta mat, ti è il me barbun, che te piangi e te me varda, quan se riscondi e mancia pa, e te me da un pu del tuo cor, quanti padroni e i comendatur, an fa e desfa in fradelur. E mi mammena San Vitur, le radoma un po' d'amor, ma resta sede tirala, e il to suris, il vedi ammo, compagn se il fide spitura, il me barbun quante vederà, quante il Signore il te chiamerà. Andare dritti e i to barbis a sta in paradis.
Voilà,
intéressant.
La chanson pour l'Auvergnat en dialecte milanais par Nanni Svamp.
On peut peut-être en écouter une autre, non ?
Oh, ça lasse pas.
Oui, on va en écouter une deuxième.
Oui, alors ce qui frappe en écoutant en parlant de ces traductions de chansons françaises en italien, c'est que les Italiens à cette période ont repris le meilleur de la chanson française. Ils ont repris Brassens, ils ont repris Brel, ils ont repris Ferré, ils ont repris Barbara. Beaucoup moins Trenet, qui est peu allé en Italie et qui était peu connu. Mais ils ont pris le meilleur de la chanson française. Pendant ce temps, les Français, qu'est-ce qu'ils prenaient de la chanson italienne le plus médiocre? C'est quand même assez caractéristique. On faisait venir des gens, bon certes, qui passaient à San Remo, et qui feront quelquefois après des choses intéressantes comme Giulio La Cinquetti, par exemple, qui se donnera à la chanson populaire
plus tard
dans sa maturité. Mais c'était le niveau de Nono Letta. Bon, c'était pas la grande chanson italienne. Il y avait en même temps les cantautori qui débutaient.
Pourtant, il y avait de la matière.
Guccini, Dalla, Iannacci. Ah. On a connu un peu Branduardi parce qu'il chantait en français.
Ouais,
mais on a quand même, dans l'ensemble, et c'est toujours vrai maintenant, qu'est-ce qui est connu en France ? C'est Laura Pausini, c'est comment il s'appelle ? Non, je ne retrouve même pas son nom, qui
ça ne doit pas avoir d'importance.
Si. Alors, c'est des chanteurs. Oh, Coutugno, c'est fini maintenant, on n'entend plus. Mais c'est des chanteurs, disons, moyens. Ce n'est pas les grands de l'Italie qui sont peu passés en France, à part Paolo Conte, qui est un peu... Les Français
c'est une exception, Paolo Conte, oui, oui.
C'est une exception.
Oui, les Français le connaissent.
Ils n'y ont rien compris, ils l'ont mal interprété, mais il est passé.
Mais il l'aime bien.
Et il l'aime bien. Mais à part ça, parmi les grands qui est venu, Guccini, jamais. Dalla, très peu.
Même De André, très peu.
De André, très peu.
Alors qu'il est allé beaucoup en Allemagne, par exemple. Il
bien
était
sûr,
très connu en Allemagne.
Bien sûr. Mm-hmm. En Espagne aussi, mm-hmm. Tenco est totalement inconnu en France. Et c'est quand même, je m'interroge là-dessus, qu'est-ce qui fait que...
Peut-être les maisons de disques qui ont des contrats, qui se passent les auteurs.
Ça peut être une explication, mais ce n'est pas la seule.
Ouais, non, ce n'est pas la seule. Je crois qu'il y a une question profonde de goût et d'histoire de la chanson qui sont entrées en ligne de compte. Mais c'est un phénomène sur lequel il serait intéressant de réfléchir. Alors, on écoute... on va écouter une chanson connue, alors, traduite en dialecte milanais par Svampa. C'est l'histoire du gorille qui s'échappe de sa cage et qui aura à choisir entre une vieille dame et un juge. Et surprise, il va choisir, vous savez qui, le juge qui, au dernier moment, va crier « Maman !» comme criaient les gens le condamné qu'il venait de faire pendre.
Non, coupez le cou.
Oui, mais...
Ici, oui, d'accord, oui. En français, il avait fait couper le cou.
Eh
oui,
d'accord.
Pas d'identité.
A travers les gabions du circo, les dunettes de tout un rion, qui guardaient notre gorille, desvedise encore la raison. C'était mis proprio tutti in fila, davanti all'esposition, d'una roba che può di nodila, una roba de fa impression. Da col gorille, facoltativo, sa nessuno questo. Allora facciamolo obbligatorio ancora. Bel momento il gabion de legna, e il serote stu bel bestiun, la sentì l'odur de campagna, la ciappa e la saltà i bastiun, e il scimion in del venifera, po' di nostra chi sarà su, e il fusava mica su un vergine, ma domani per rivesse il pe, da calguri, Paiasce il padron del circo, instai prima a sentir l'odur, ai che sem stavete il gorilla, che il gaveia de fa l'amour. Tu ci don quan canti la storia, che il scimion le radre a cerca, sarà stata anche la paura, si stremia e comincia a scappar. Da col gorilla. Anche quei che un quart d'ora prima le guardava in con due cinci, in scappà l'è la coerenza che manca che la gen lì. Sarà stata anche l'ignoranza, fatto sta se s'aveva in guai, che il gorilla pur tal'istanza del marile era molto mei. Dopo il
Pour accompagner ce gorille, j'ai ressorti mon livre de recettes de Casanova. Hein, vous l'aimiez bien, alors j'ai dit, bon, on ne les a encore pas toutes utilisées. Comme c'est la saison des asperges, j'ai trouvé des asperges frites, comme les aimait Casanova. Voilà, 24 grosses asperges.
C'est aphrodisiaque ?
Certainement, oui. Toutes les recettes du livre sont aphrodisiaques.
Ah bon.
Voilà, donc 24 grosses asperges. Je vous prépare une pâte à beignets avec 160 g de farine, 2 décilitres d'eau, un petit verre de cognac et une pincée de bicarbonate
de soude. Comment te fait, pourri, je n'ai pas compris.
Hein, une pincée de bicarbonate de soude pour rendre la pâte très légère, la rendre mousseuse et un peu de sel. Alors vous préparez donc votre pâte à beignets et la laissez reposer 2 heures avant de l'utiliser. Pendant ce temps, vous préparez vos asperges, nettoyez, épluchez comme d'habitude et les coupez en petits bouts de 5 cm environ. Au moment de servir, vous chauffez une bonne quantité d'huile dans un récipient plutôt petit mais profond afin que tous les légumes soient bien immergés. Vous plongez les morceaux d'asperges dans la pâte, puis immédiatement dans l'huile chaude, de l'huile d'arachide, hein, pas de l'huile qui a du goût, par petite quantité et à feu pas trop vif, de façon à ce qu'elles aient le temps de cuire complètement tout en prenant une belle teinte dorée. Vous égouttez sur du papier absorbant et voilà une façon de manger les asperges autrement qu'à la vinaigrette. Hein. C'est classique.
Ah,
la vinaigrette.
Oui.
Les asperges en beignets, comme les mangeait Casanova.
Et vous êtes sûr que Casanova en mangeait ?
Ah si, c'est un livre, c'est extrait de son livre de mémoire, ça.
C'est extrait de ses
mémoires.
Oui. Qui sont publiés en français
absolument.
Dans la collection.
Oui. Elles n'ont pas été publiées, elles ont été écrites en français.
Elles ont été écrites en français.
Casanova, un vénitien gourmand.
Voilà. Mais elles viennent d'être republiées dans la collection bouquins. Et en général, des mémoires de Casanova, on ne connaît que quelques épisodes, c'est une œuvre d'une richesse, d'une profondeur extraordinaire. Il n'y a pas que ces récits érotiques. C'était un politique, c'était un diplomate, c'était un type extraordinaire.
Un gourmet. Voilà.
Donc vous mangerez les asperges frites de Casanova. Voilà.
On va se quitter.
Jusqu'à la rentrée scolaire.
L'année prochaine, on a l'impression qu'on va vieillir.
Au mois de septembre. On va avoir 3 mois pour préparer des émissions.
Bonnes vacances à tous.
On prend de grandes vacances. Voilà.
Sur Couleur FM 97.1.
Voilà. www.couleurfm.fr. Couleur FM.
À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'INIS, le 4e jeudi de chaque mois, de 18h à 19h.
Retransmission. Le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.